France Culture.
8-09 en septembre, j'ai eu un mot en maths, un travail non fait, un mot en physique, pour bavardage et prise de parole sans avoir levé la main. Le 16-09 en espagnol, j'ai eu un mot pour bavardage, un mot en art plastique parce que j'avais oublié une pochette de dessin. Le 19-09, j'ai eu un mot en espagnol.
Article L111-1 du Code de l'éducation.
J'ai oublié mes codes de pronotes.
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants.
J'ai eu un mot pour concentration. Le 29-09 en anglais, lance un crayon à travers la classe.
Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative.
Le 8-10 en maths prend la parole sans autorisation. Le 9-10 en anglais.
Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser.
Le 13-10 physique chimie se tient très mal.
Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction.
Il pousse les élèves de 6e dans le couloir.
Trouble 10, des vies à inventer. Une série documentaire d'Elvire Cassan, réalisée par Marie-Laure Ciboulet.
Ne sort pas ses affaires dès le début du cours. Se retourne, déconcentration, agitation et cours dans les couloirs, prise de parole.
Épisode 3, les 10, des handicapés de l'école.
Dès son entrée à l'école à 2 ans et demi, là on m'alerte, les maîtresses.
Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Que ça se passe pas bien avec Isaiah, qu'il est très agité en classe, qu'il est souvent puni, qu'il prend la parole sans demander, hein, qu'il rentre pas dans les cases de l'école.
Barbara Kaïta.
Moi je me sens impuissante, parce que je ne sais pas comment l'aider d'ailleurs, de ce mal-être à l'école, et je me sens pas épaulée, puisque quand le médecin scolaire vient voir Isaiah à l'école, bah, il me dit que ça va, qu'il est juste agité. Parce que c'est un garçon, puis qu'il est immature, parce qu'il est né en fin d'année. Donc, moi, je ne m'inquiète pas plus que ça. Je me dis qu'on va patienter, puis ça ira mieux.
Il est en maternelle ?
Oui, il est en maternelle et il est en grande section. Je suis rassurée, parce que c'est un médecin scolaire qui me le dit, mais en même temps, je trouve que les arguments d'être un garçon et d'être né en fin d'année ne justifient pas tous les comportements qu'Isaiah a pu avoir en classe. De jamais pouvoir s'asseoir, de ne pas faire ce qu'on lui demande, même à la maison, de ne pas pouvoir gérer ses émotions, d'avoir des peurs, des craintes, des peurs de la mort très tôt, des peurs du noir. Donc ça, je n'ai pas les réponses. Et c'est très difficile tous les matins. Et d'ailleurs, il y a l'une de ses maîtresses qui m'interpelle. Elle me dit, je pense à vous le week-end, parce que je ne sais pas comment vous faites tous les matins. Ben, je lui dis, c'est dur pour moi, mais c'est surtout dur pour Isaiah, parce qu'il ne veut pas aller à l'école et que moi, je dois aller travailler.
Je m'appelle Isaiah, j'ai 11 ans. Je suis en 5e, j'ai de la dysgraphie, de la dyspraxie et un trouble de l'attention. Moi, j'étais quelqu'un qui bougeait partout, de très agité, de très joyeux. Et les gens, bah, ils me trouvaient bizarre. Ils me disaient tout le temps, t'es bizarre. C'était vraiment le mot que je recevais tous les jours. Parce que eux, ils pouvaient pas comprendre. Eux, c'était des gens comme les autres. Ils avaient rien, ils savaient rester en place, ils savaient rester concentrés sur une feuille. Du coup, ils ne pouvaient pas comprendre et c'était le mot que je recevais tout le temps, t'es bizarre. Et quand j'étais petit, bah, j'avais pas d'amis et je restais tout le temps tout seul.
Donc toi, quand t'as su que t'avais un trouble de l'attention, t'étais en primaire, tu te rappelles ?
Oui, à peu près chaque week-end, et bah, j'allais faire des bilans. Dans un hôpital. Et après, je me suis dit quand même, ça allait être difficile. À l'école, avec un trouble et du mal à écrire et plein de choses comme ça, ça allait être difficile. Avec ma mère, le week-end, des fois, je prends 2-3 heures à faire un devoir qui est totalement facile et que mes camarades font en 10 minutes. Mais moi, je suis obligée de le faire en 2 heures parce que j'arrive pas à le faire. Et les profs ne voient pas assez mes efforts. Les profs, bah pour eux, c'est pas très important. Les troubles, ils font comme s'ils n'existaient pas alors qu'ils existent. Je déteste l'école.
Depuis toujours ?
Oui, depuis tout petit, parce que je suis tout le temps punie.
PAP, PPRE, PPS, SIEC, MDPH, CDAPH, AEEH, PCH, AESH.
Je me rends pas compte du parcours du combattant qui m'attend. D'ailleurs, lors de l'équipe éducative, on vous parle d'acronymes PAP, PPS. Enfin, moi, c'est des mots que je connaissais pas du tout. D'ailleurs, Isaiah a eu un PAP avec des aménagements qui sont préconisés. Un PAP qui n'a jamais été respecté, d'ailleurs.
Plan d'accompagnement personnalisé de l'enfant. Installer l'élève face au tableau, agrandir les formats des supports écrits, proposer à l'élève des outils d'aide, caches, règles, etc. Accorder un temps majoré, privilégier les évaluations sur le mode oral. Ne pas pénaliser le soin, l'écriture, la réalisation de figures. Ne pas sanctionner les tracés en géométrie. Laisser compter sur les doigts.
Moi, je pensais que tout allait s'arranger, qu'enfin, il allait être épanoui en classe. Et en fait, on s'est aperçu que, il n'était pas respecté, que la maîtresse, en fait, elle n'avait pas le temps de mettre des choses en place, ou parfois, elle n'y pensait peut-être pas.
Comment vous en apercevez?
Parce qu'Isaiah me le dit, quand il fait une dictée. Il me dit, j'ai zéro. t'as pas une dictée à trous, mais non.
Et qu'est-ce que vous faites?
J'écris à la maîtresse. Et elle dit que oui, elle va le faire. Puis elle le fait pas. Puis j'écris encore. Parce qu'il en a besoin. Parce qu'il y a une fatigabilité à l'écriture, qu'on nous l'a dit.
Dans nos classes, on n'est pas forcément tous formés
Lucie.
Pour accompagner ces élèves correctement.
Professeur des écoles.
À l'UFM, on n'a pas eu de formation particulière. Et ensuite, dans le cadre de la formation continue, on n'a pas non plus ce genre de formation qui nous sont proposées. Alors après, je ne sais pas exactement comment ça se passe ailleurs, puisque moi, j'ai vraiment un regard sur une école, une circonscription. Mais du coup, on a plutôt des formations assez générales qui sont souvent liées au programme sur des pratiques particulières en maths, en français. Parfois, on peut avoir une formation suite à une conférence, je ne sais pas, sur l'astronomie, par exemple, et puis on va avoir tout un module présenté, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on a peu de formations sur les 10 et sur le handicap, alors que on a quand même de plus en plus d'élèves qui sont scolarisés avec des troubles qui nécessiteraient qu'on soit formé, et malheureusement, on n'a pas.
Comment vous faites alors?
On fait une petite cuisine, on se débrouille. On échange aussi parfois entre collègues en se disant « Oh là là, mais comment tu faisais avec lui l'an dernier ? Ah oui, tu faisais ça, ok, je vais peut-être essayer. » Mais c'est vrai qu'on a peu de ressources. Après, c'est vraiment aussi, je vais dire un peu à la bonne volonté de chacun. C'est pas bien de dire ça, mais l'envie de se documenter par nous-mêmes, de se renseigner. Quand on se trouve en difficulté avec un élève et qu'on ne trouve pas, on essaye de chercher un peu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux sociaux, de blogs d'enseignants, de choses de ce genre qui nous permettent aussi de glaner des informations à droite à gauche.
Cette question de la formation, elle est essentielle. Elle passe par la formation initiale, mais elle passe aussi par la formation continue.
Claire Hédon, défenseur des droits.
Elle passe par la formation à l'ensemble des formes de handicap, parce qu'on ne prend pas en charge de la même manière un enfant 10 qu'un enfant en situation de handicap physique ou psychique. Et évidemment, du coup, il faut avoir un minimum d'informations pour pouvoir prendre en charge correctement cet enfant. On est très frappé sur les élèves 10, sur le fait que les difficultés tiennent beaucoup à la méconnaissance de ces troubles, et le plan d'accompagnement personnalisé qui est parfois refusé, tardif, les aménagements qui sont vécus comme des privilèges, on sent que là-dessus, il y a un besoin de formation, et je redis formation initiale, mais aussi formation continue, parce qu'évidemment, la science aussi progresse sur ces questions de compréhension et de nécessité de prise en charge.
Quand la reconnaissance de handicap arrive, donc il y a une valeur qui est plus contraignante, vous ne vous dites pas que ça va changer?
Déjà, quand la reconnaissance arrive, il y a 2 ans, ils allaient au collège. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'attends impatiemment, mais au bout d'un an, je reçois un refus. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais ce que je sais, c'est que le temps passe et qu'il est encore en difficulté, qu'on passe... L'école passe son temps à me solliciter, à m'appeler pour que moi je trouve des solutions. Moi, j'en ai pas. Il y a des aménagements qui doivent être mis en place, qui ne le sont pas. Donc, en fait, on tourne en rond. Et il y a Isaiah au milieu qui souffre. Je ne m'imaginais pas déjà remplir autant de formulaires. Je ne m'attendais pas à des délais, parce qu'on parle d'enfants. On parle d'enfants en situation de handicap. On va dire que le délai de la MDPH, par exemple, du 92, c'est 4 mois. J'ai attendu un an, sans avoir une réponse, sans pouvoir les appeler par téléphone, sans savoir où en était de l'état d'avancement de mon dossier, pour avoir un rejet. Je fais un recours, je prends une avocate, je vais au tribunal, et j'ai gain de cause en 2024. Les aménagements, Isaiah a commencé à en bénéficier en sixième. C'est violent. J'ai eu des aménagements pour 2 ans. On m'octroie l'aide humaine mutualisée, c'est-à-dire qu'il va partager l'AESH avec d'autres enfants en situation d'handicap. Je n'ai pas d'heure, parce que le tribunal ne le stipule pas. Donc je me rends compte très vite qu'il a le strict minimum, 4 heures par semaine.
Donc ça, c'est la rentrée de sixième.
C'est ça, 4 heures. Ils avaient mis une AESH en musique. Je me disais, ben non, pas du tout. Bon, il y avait des fondamentaux pour moi, le français. Il y a beaucoup d'écriture, donc vu qu'il est dysgraphique, peut-être que l'AESH peut le soulager à la tâche écrite. Les maths, parce qu'il y a la géométrie, il est dyspraxique, donc tout ce qui est matériel, compas, équerre, rapporteur, il n'y arrive pas. Donc là, l'AESH aussi pouvait pallier à ses difficultés. Histoire géographie, on écrit beaucoup de choses aussi, on colorie des cartes en géographie. Il a fallu une équipe éducative pour mettre en place l'AESH sur les matières dont il en avait vraiment besoin.
Vous imaginiez qu'avec une reconnaissance de handicap, ça serait si complexe avec l'école ?
Non. Moi, je pensais juste qu'on allait appliquer la loi, que l'école était inclusive et que de là, tout irait pour le mieux. Sauf que non, ça ne va pas mieux. Isaiah se retrouve en difficulté, donc je passe mon temps à écrire pour faire valoir ses droits. Quand les AESH ne sont pas là, les familles ne sont pas prévenues. Donc c'est Isaiah qui m'informe ne pas avoir eu d'AESH, pas d'aide. Et je lui demande comment t'as fait. Il me dit je me suis débrouillée tout seul. Enfin, débrouiller tout seul, c'est ne rien faire.
Je trouve que cette année, c'est pas un beau début d'année par rapport à l'année dernière.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui est différent cette année ?
Le changement d'AESH. En fait, l'année dernière, j'avais une AESH, Stéphanie, et on m'avait dit que j'allais la revoir cette année, et j'étais content. Du coup, je retourne en cours pour la rentrée, et je vois que c'est pas Stéphanie, et que c'est un autre monsieur, et sauf que moi, je m'étais habituée à Stéphanie, et du coup, le changement directement, j'avais besoin d'un temps d'adaptation, parce que le monsieur est pas du tout pareil. C'est un monsieur vraiment différent, très différent.
C'était la surprise de cette année. J'y attendais à entamer la nouvelle année avec Isaiah au mois de septembre. Et malheureusement, c'était pas le cas. Il n'a même pas été prévenu. Et moi non plus. Ça a été le choc pour moi. Parce que je l'ai appris de sa bouche.
Pourquoi il y a eu ce changement ?
Aucune idée. Il était complètement déstabilisé, Isaiah. Moi, j'ai accompagné un autre élève et mon collègue, il accompagne Isaiah.
Donc, vous n'êtes plus son accompagnante, mais il est en classe avec vous.
Avec moi. Voilà, c'est très bizarre parce que j'aurais pu très bien l'accompagner et que les rôles échangés, que mon collègue prend l'élève et que moi, je puisse continuer avec Isaiah.
On manque d'AESH. Pourquoi on manque d'AESH ? Il faut évidemment se plonger dans cette question. Très peu bénéficient d'un temps plein. Donc, c'est des salaires qui tournent plutôt autour de 800-900 euros qu'un SMIC complet, puisque considérer que les 25 heures et pas l'intégralité. Or, évidemment, il y a tout le temps d'échanges après, avec les enseignants, avec les parents. Et ce temps-là n'est pas compté. Certaines sont affectées dans plusieurs écoles, donc avec des temps de trajet entre les différentes écoles. Donc, on a un problème d'attractivité sur le salaire, sur le temps, sur la formation, sur l'évolution. Donc oui, c'est aussi pour ça qu'on manque. Et puis des métiers incroyablement féminins, d'ailleurs, qui dit quelque chose aussi sur la précarisation de ce genre de poste. C'est devenu le deuxième métier de l'éducation nationale. Donc, il faut évidemment le rendre plus attractif. Et une de nos préconisations, c'est de considérer qu'en fait, c'est un temps plein. Alors, il y a un problème de budget. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Qu'est-ce qu'on met en parallèle? Les questions financières et le respect des droits de l'enfant? Et du droit à l'éducation qui est un droit absolument fondamental. Et donc, évidemment, moi, où je suis, je ne peux pas entendre cet argument de difficulté financière. En fait, il faut rappeler que l'État a, en matière de scolarisation des élèves handicapés, une obligation de résultat. Le fait de laisser l'enfant sans AESH, parfois pendant des mois, porte atteinte à son droit à l'éducation et engage, en fait, potentiellement la responsabilité de l'État.
L'association qui milite pour une école inclusive attaque en justice une dizaine de rectorats pour les forcer à embaucher des accompagnants d'élèves en situation de handicap, des AESH, afin de faire cesser un manquement.
Là, il faut qu'on puisse, nous, avancer sur cette idée de l'école inclusive, en tout cas de ce qu'il en ressort, même si aujourd'hui, concrètement, on peut dire que c'est de l'inclusion déguisée, il n'y a pas d'autre mot. Et là, nous, c'est ce qu'on attend, c'est que ça puisse remonter au ministère et qu'on puisse avoir de réelles solutions sur le terrain. Parce que pour l'instant, on nous écoute, c'est très bien. Par contre, sur le terrain, ça change pas.
À la rentrée 2025, plus de 48 700 élèves en situation de handicap étaient en attente d'AESH sur 352 000 élèves devant en bénéficier, soit une moyenne de 14% d'élèves non accompagnés, selon les chiffres de l'association. Cette action en justice intervient en marge d'une mobilisation nationale en faveur des AESH et notamment pour la création d'un meilleur statut pour ces personnels.
Vous, vous gagnez depuis 5 ans, vous gagnez combien par mois? Est-ce que vous avez été augmentée?
J'ai été augmentée. Là, je suis à 1172 euros
et vous avez... net. Et vous avez commencé à combien?
J'ai commencé à 782 ou 89.
Et c'était quelle amplitude horaire?
Alors, ça varie, ça change. Donc, vu que j'étais à la maternelle, je commençais à 8h30. Et les après-midi, j'allais au collège. Donc, je terminais soit à 15h30, des fois à 17h. Moi, je trouve qu'en vrai, c'est un peu compliqué, surtout quand l'établissement se trouve pas à côté. Donc, du coup, on doit vite courir. Et des fois, ben, on n'a même pas le temps de manger d'avant notre pause et qu'on doit enchaîner. Donc, on passe du temps dans le transport pour aller dans notre établissement.
Et vous vous absentez combien de temps de chez vous dans ces cas-là?
Alors, il faut savoir que moi, je ne viens pas du 92, je viens du 95. J'ai fait pendant un an et demi entre le 92 et le Val-d'Oise, Montmorency. Donc, je mettais 2 heures, l'aller et le retour. Et il faut savoir que malheureusement, quand on passe l'entretien, on nous lâche comme ça, dans la nature. On n'est pas formé. Il y a des formations hein, en cours d'année, mais je trouve pas assez. Parce qu'on est totalement jeté dans l'inconnu, on ne sait pas. Je me suis formée, moi, toute seule, en trouvant des informations sur Internet. Ben sinon, si ce n'était pas moi qui allais chercher les informations pour pouvoir accompagner les élèves qui sont atteints de cet handicap-là, ben, je ne saurais pas comment m'y prendre. Malheureusement, ce travail, c'est, on le choisit vraiment. C'est soit vraiment on est motivé, on aime notre métier, parce que ce n'est pas le salaire hein, qui nous encourage à faire ce travail, et, parce qu'on n'est pas reconnu. On travaille pour l'éducation nationale. On a les mêmes vacances que les profs, mais pas le statut qui va avec. Plusieurs fois, moi, j'y ai pensé, hein, à un moment donné, à changer de travail. Mais j'ai décidé de rester parce que je me dis que ces enfants-là, ils en ont besoin.
Une première mobilisation ici à Solferino, des AESH, les accompagnantes des élèves en situation de handicap, qui réclament un statut de fonctionnaire.
C'est à l'école de s'adapter et à changer ses méthodes de façon générale. Tout ne passera pas par l'accompagnement d'une AESH supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Des méthodes éducatives différentes, ça veut dire des programmes qui s'adaptent, ça veut dire des effectifs en nombre réduit, des manuels scolaires adaptés.
L'école inclusive, c'est un très très joli projet. Et oui, il faut évidemment ouvrir l'école à tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés, ça c'est certain. Le problème, c'est que il faut aussi nous mettre, enfin il faudrait qu'on puisse avoir des moyens un peu plus importants. Moi, la chose qui me semblerait la plus importante, c'est d'avoir des effectifs qui soient moins élevés dans les classes. On a des classes où on est facilement, 30, ça devient courant. Il y a quelques années, 30 élèves, c'était dingue. Et quand on a 30 élèves dans une classe, Bah, c'est compliqué de trouver le temps nécessaire pour s'occuper des enfants qui ont besoin d'une aide un peu plus particulière. Les élèves qui sont en réussite, l'effectif, ça joue beaucoup moins sur eux, ça joue plus sur les élèves qui ont des difficultés. Ne serait-ce que tous les enfants qui ont des soucis d'attention, de concentration, l'effectif, c'est vraiment un obstacle pour eux, quoi. 30, c'est énorme dans une classe, d'abord au niveau de la place que ça prend, les tables, les chaises, on n'a pas des salles qui sont extensibles, donc c'est difficile d'avoir un petit coin un peu tranquille où on pourrait mettre une petite table ronde pour travailler juste avec 2, 3 ou 4. Là encore, il faut aménager un peu nos classes pour réussir à avoir un espace qui nous permette de travailler un petit peu de manière différenciée. La différenciation, alors on a certains manuels dans lesquels il y a des pistes de différenciation qui nous sont proposées. Sinon, encore une fois, c'est nous et notre expérience, et c'est à nous de réfléchir à ce qu'on met en place pour les uns, pour les autres. Donc rapidement, quand on a 2 ou 3 élèves qui ont des troubles différents, on a systématiquement 2 ou 3 préparations différentes à faire pour un même travail. Pour certains, par exemple, on a des exercices qui sont proposés sur un manuel qu'on va retaper à l'ordinateur pour avoir, des textes à trous pour pas avoir besoin de recopier le texte en entier. Et par exemple, ceux où on sait que sur les problèmes, c'est compliqué, je vais refaire des énoncés en simplifiant l'énoncé, en simplifiant les nombres utilisés. On va faire une partie d'un travail sur une ardoise, par exemple, parce que c'est un support qui est assez facile pour les élèves et qui est un peu sécurisant pour eux parce que l'ardoise, on met, et puis si on se trompe, c'est pas grave, on efface, il n'y a pas de trace. Pour certains, se tromper, ça peut être un peu angoissant, un peu stressant. Donc du coup, le support ardoise, c'est pas mal pour ça. Voilà, suivant la façon dont on travaille, en fait, on va réadapter les choses, mais ça, c'est effectivement pas fait dans le manuel. C'est nous qui faisons et qui adaptons pour eux.
Les manuels scolaires sont très utilisés en France. C'est une volonté gouvernementale ministérielle. Et ils ne sont pas adaptés du tout à l'utilisation par les enfants en situation de handicap. Comment ça se fait que l'État se soit aussi peu préoccupé de cette problématique de l'adaptation des manuels scolaires depuis 20 ans, alors que par ailleurs, le même État souhaite que ce soit les manuels scolaires qui sont utilisés par les enseignants? C'est une vraie question.
Caroline Huron, chercheuse à l'INSERM et fondatrice de l'association Le Cartable Fantastique.
C'est pour ça qu'on a fait un projet de recherche qui s'appelle le projet Malin, avec des chercheurs de Centrale Supélec, du CNAM et de l'Université Paris-Saclay, puis donc de l'INSERM et Le Cartable Fantastique, pour essayer d'automatiser l'adaptation des manuels scolaires via l'intelligence artificielle, parce que sinon, l'adaptation d'un manuel scolaire type cartable, ça prend 3 mois. Et vu le nombre de manuels scolaires, il faudrait que j'embauche, 50 personnes pour répondre à ce besoin. On en est au niveau du prototype et surtout, on a juste résolu la question pour les manuels de français. Après, il va y avoir les mathématiques qui vont poser d'autres problèmes. Puis, tous ces manuels d'histoire géo, de sciences qui ne sont pas du tout accessibles.
Bienvenue, je suis la maman de Antoine et Quentin.
On vous suit ?
On y va.
On va aller voir Quentin qui révise.
Je m'appelle Virginie Matteau. J'ai 2 garçons, Antoine et Quentin, qui sont tous les 2 atteints de troubles 10, de troubles de l'attention et du trouble du spectre autistique. Alors, Antoine a 19 ans et Quentin a 16 ans. Antoine est en prépa, en deuxième année de prépa pour être ingénieur, et son petit frère est en première.
J'ai beaucoup de troubles 10, avec majoritairement la dyslexie et la dyspraxie. Et j'ai aussi un trouble de l'attention que j'arrive un peu à gérer avec la Ritaline, un médicament qui m'aide chaque jour à me concentrer à travailler.
L'empêchement de la dyslexie dans le travail, ça se retrouve dans la manière que tu as d'écrire?
Ouais, beaucoup. Beaucoup plus l'écriture que la lecture. Enfin, la lecture, elle se manifeste aussi par la lecture, mais justement, là, j'écris très, très, très mal. En primaire, j'avais beaucoup par exemple de moins de points ou des choses comme ça, c'était un peu compliqué. Donc rapidement au collège, en sixième, je prenais beaucoup de cours pour apprendre d'ergothérapie, je crois, pour apprendre le PC. À écrire au PC, je l'ai eu en cinquième, parce que ça me, franchement, sans PC, je saurais pas comment je m'en sortirais, parce que ça m'aide vraiment à mieux me relire, à être moins fatigant, c'est plus organisé, je peux prendre mes notes comme je veux, donc c'est vraiment un atout qui m'aide beaucoup.
C'est un moyen de compensation.
Ah oui, oui, c'est franchement pour moi, c'est obligatoire, sinon je pourrais pas avoir des bonnes notes, ou vraiment, ça serait beaucoup plus compliqué chaque soir, ou des choses comme ça.
C'est quoi ta moyenne générale?
Alors là, elle est à 13, 13,5. Enfin, elle est pas basse, ça va, mais...
Et au brevet, t'as demandé des aménagements?
Ah oui, au brevet, j'avais le droit à un tiers-temps aussi, et à mon ordinateur. Le tiers-temps, j'utilise beaucoup aussi. Au lycée, c'est systématique, j'en ai vraiment besoin, parce que avec tous ces troubles 10, ces problèmes d'attention, j'ai un problème d'expression écrite, donc j'ai les connaissances, mais j'exprime très mal mes idées à l'écrit. J'ai compris vraiment l'importance du tiers-temps. Par exemple, au français, l'autre jour, j'avais une dissertation de 4 heures, et j'avais 5h20, du coup, parce que j'ai un tiers de temps en plus, et du coup, ça m'a... Pour moi, 5 heures, c'était impossible, je me suis dit, en 4 heures, c'est fini. Mais justement, j'utilisais presque tout mon temps, les 5h20. En fait, il faut faire un plan rédigé. Et moi, j'ai vraiment du mal parce que j'ai les mots, mais j'ai du mal à vraiment les trouver. Donc le plan, je prends beaucoup plus... Ou la problématique à rédiger, je prends beaucoup plus de temps qu'une personne normale qu'on trouve. Et du coup, moi, c'est pour ça que le tiers-temps m'aide beaucoup à trouver des phrases ou des choses comme ça.
Est-ce que tu as eu des difficultés à les faire accepter en classe?
Alors honnêtement, c'est pas moi qui ai... C'est plus mes parents du coup qui ont dû ressentir cette difficulté. Mais moi honnêtement, on m'a donné mon PC en cinquième et moi on m'a toujours accepté le fait d'avoir un ordinateur.
Article L112-4. Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation par le candidat de son équipement personnel.
Être 10, c'est une maladie de l'école. C'est-à-dire que en permanence, vous devez lutter contre ce système scolaire qui n'est pas adapté pour vous et qui ne veut pas s'adapter à vous. Et voilà, c'est une bataille quotidienne et vous êtes très seul. C'est pour ça que j'ai voulu monter ce collectif. J'ai été avocate, j'ai eu la chance de travailler à l'Assemblée nationale. Et c'est aussi pour ça, je me suis dit, je vais pas garder tout ça pour moi, il faut que je le partage et il faut que tous ensemble, on puisse avancer pour faire bouger les choses parce que tout seul, en fait, on n'y arrive pas.
Objet, saisine en urgence, aménagement d'examen. Madame, monsieur, je vous écris afin de solliciter l'intervention du défenseur des droits concernant des aménagements d'examen accordés de manière partielle et manifestement inadaptée à la situation de handicap de mon fils Jérémy, atteint de troubles 10 et âgé de 16 ans, qui doit passer le bac français dans quelques semaines.
Madame la défenseur des droits, je me permets de vous saisir concernant le refus d'aménagement aux examens opposé à ma fille Capucine, née le 7 juin 2010, et concernée par des troubles 10, attestés par des bilans médicaux et paramédicaux joints à ce courrier. Ces troubles constituent un handicap au sens de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Malgré un dossier complet déposé dans les délais impartis auprès du SIEC, la demande d'aménagement a été refusée par décision du 3 mars 2024.
Madame la défenseure des droits, je me permets de vous saisir concernant la situation de ma fille Elsa, actuellement scolarisée en classe de première STMG dans un lycée parisien, et confrontée à un refus d'aménagement aux examens qui la place aujourd'hui dans une situation de grande détresse.
C'est arrivé d'un seul coup de façon assez massive. C'est les refus d'aménagement, et qu'on appelle discriminatoires, refus partiel d'aménagement pour le bac, pour le brevet. Pourtant, le jeune avait bénéficié depuis plusieurs années d'un plan d'accompagnement personnalisé qui était validé par des professionnels de santé.
Scolaire de ma fille. Dans cette décision, Elsa présente une anxiété importante, envisage de ne pas se présenter à l'examen et exprime une perte de confiance majeure.
Je sollicite donc votre intervention afin de permettre la mise en place rapide des aménagements nécessaires.
Et alors, ce qui nous a aussi beaucoup étonnés dans l'argumentaire qui est avancé, c'est le jeune réussit. Et donc, il n'a pas besoin de l'aménagement, sous-entendu, ça l'avantagerait par rapport aux autres. Parce que de quoi on parle, en fait, de l'utilisation d'un ordinateur avec correcteur d'orthographe, soyons très concrets dans ce que ça veut dire, et du tiers-temps supplémentaire. Mais c'est absolument incroyable, parce que c'est justement parce qu'il y a eu un aménagement que le jeune réussit, et il faut au contraire permettre qu'il continue de réussir. Ça n'a pas de sens, parce que ce qu'on veut, tous ces jeunes, c'est qu'au bout du compte, ils aient un diplôme, ils puissent trouver du travail. Et évidemment qu'ils seront tout à fait efficaces dans le travail. Ils ont juste besoin d'une adaptation.
Je pense à une jeune fille qui, dont la maman a rejoint le collectif. Dans son lycée, il y a eu 12 refus sur les aménagements d'examen l'année dernière pour le bac. Elle, c'est la seule dont la maman est allée devant le tribunal. Les autres, les parents ont baissé les bras.
Pourquoi ?
Et on leur jette pas la pierre, parce que c'est tellement dur de devoir prouver tout le temps, de refaire des bilans tout le temps. Tout le temps, enfin, d'aller se battre devant le tribunal administratif. Enfin, voilà. Et en plus, vous avez le handicap à gérer au quotidien, parce que ce sont des enfants qui demandent beaucoup d'attention, qu'il faut faire travailler jusque très tard le soir, jusque très tard dans l'avancée de leur parcours scolaire aussi. Donc, il faut apprendre les cours. Enfin, voilà. Il faut aussi avoir les capacités intellectuelles de le faire. Parfois, les parents lâchent. Et lâchent parce que c'est épuisant. Au quotidien, c'est épuisant. Donc, il faut avoir une énergie folle, il faut avoir un soutien, parce qu'on s'aide les unes les autres quand, enfin, c'est souvent les mamans, hein, je suis désolée, qui sont sur le pont, mais voilà, ce soutien est indispensable entre nous, parce que c'est pas facile tous les jours, quoi.
Il faut déjà savoir que ce recours est possible, avoir les moyens de le faire, se faire accompagner, avoir un avocat. Donc tout ça a évidemment un coût. C'est pour ça que quand on nous saisit, c'est important de le dire, vous nous saisissez, nous allons traiter le dossier gratuitement. Et on va, et je dis majoritairement, essayer de travailler en médiation. C'est-à-dire donner les arguments pour pouvoir maintenir cette adaptation au moment de l'examen. On ne gagne pas toujours, hein, je tiens à vous le dire. Dans l'ensemble de nos réclamations, dans 80% des cas, on part en médiation, qui aboutit dans les trois quarts des cas. Donc, ça ne marche pas toujours, mais souvent, ça permet de débloquer les situations. Ce qui est frappant aussi dans cette situation-là, c'est la question de l'urgence. Et comment cette question-là, elle peut pas être décidée plus tôt? Pourquoi la décision, elle tombe à 15 jours de l'examen ou à un mois de l'examen? Pourquoi ça peut pas être décidé plus tôt? C'est aussi là-dessus qu'il faut réfléchir. Et puis, heureusement qu'il y a des recours, hein. Enfin, heureusement qu'on a un recours contre l'administration. Mais il y a pas mal de moments où quand même on pourrait éviter de mettre, parce que ça met le jeune dans un état de stress très important, de pas savoir à quelques jours de l'examen s'il bénéficiera de ce temps supplémentaire et de son ordinateur. Ce qui me frappe dans toutes ces questions, c'est qu'en fait, on demande à l'enfant, au jeune, de s'adapter au système scolaire, aux parents de s'adapter, alors que c'est le système scolaire qui doit s'adapter à l'enfant. Et je pense que c'est ce point-là dont il faut se rappeler en permanence, grâce à la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et vraiment se poser à tout moment cette question, quel est l'intérêt supérieur de l'enfant? À quel moment, en fait, on prend des décisions juste par pragmatisme parce que ça nous arrange et que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant?
Article L112-4 du Code de l'aide sociale et de la famille, l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits, doivent guider toute décision le concernant.
Bonjour. Ils sont encore en cours, mais ils ont fini dans 5 minutes, je pense. Hein.
On vous suit ?
Oui, allez-y, entrez.
Moi, je suis Stéphanie Bouget. J'ai 51 ans. Je suis psychologue. Et là, on se trouve dans l'école EDEIS, qui se trouve à Isigny, tout près de Bordeaux. L'école est une école qu'on a fondée en 2020 pour accompagner des enfants qui avaient des troubles qu'on appelle maintenant des TND, troubles du neurodéveloppement.
Et donc vous avez créé cette école, pour quelle raison ?
En fait, on a un fils, enfin on a deux enfants, et notre deuxième enfant, Sacha, a des troubles des apprentissages depuis toujours, hein, finalement, et à partir de la sixième, c'est devenu très, 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 très compliqué. J'allais dire, si je devais répondre en une phrase, pour survivre en fait, on a créé pour survivre, nous en tant que parents et lui en tant qu'élève. Tout était combat, c'était pas possible, c'était plus possible. Notre seul problème avec notre fils, c'était dans l'éducation qu'en fait. C'était sorti de l'école, on n'avait pas de problème. Enfin, le quotidien était tout à fait classique et au contraire, les gens qu'il croisait en dehors du monde scolaire disaient « qu'est-ce qui doit être un bon élève ?» Sauf que lecture et écriture, quasi impossible. On a mis beaucoup de temps à comprendre, j'allais dire presque tout le primaire, finalement, pour se rendre compte que au collège, ça allait être très douloureux. C'était très douloureux d'avoir à défendre notre fils en permanence, à expliquer quels étaient ses besoins et ses limites. Et puis jusqu'à un moment où c'est plus possible, quoi, parce que la mésentente prend toute la place et elle déborde complètement de l'éducation de l'école, quoi. Et elle prend toute la place dans la vie de toute la maison, quoi, en fait. Et tout de suite, l'impact sur son quotidien est dur. Enfin, il a une estime de lui dans les chaussettes, quoi. En fait, c'est très difficile. Son rapport aux autres est compliqué aussi. Maintenant, on le sait, mais on l'a su que sur le tard, il y a eu le harcèlement. Il a vécu de la violence physique. On savait que ses rapports étaient difficiles, mais on le tenait responsable de ses rapports difficiles avec les autres aussi, en fait. Et je crois que la gravité, on l'a juste perçue après. Après, une fois qu'il a été bien des années plus tard, finalement, quand il a pu ne plus avoir besoin de nous protéger, probablement. Je crois qu'il cherchait aussi à nous protéger. Déjà, il nous voyait nous battre pour les cours, pour tout ça. Je pense qu'il a sûrement cherché à nous protéger en ne relatant pas tout ce qui s'était passé, quoi, en fait.
On était en grande difficulté avec notre fils Sacha, qui est donc dyslexique, dysorthographique, un point quand même assez important. Son orthophoniste nous disait qu'il était presque un cas d'école, en fait. Bon.
Éric Bouget.
On voyait pas trop d'échappatoire, en fait, pas forcément de solution. Même en essayant de mettre un maximum de choses en place, c'était compliqué. C'est compliqué dès le primaire, mais vous n'avez qu'un interlocuteur ou qu'une interlocutrice, donc avec l'enseignant, on arrive à gérer. Et puis, arrivé au collège, là, tout s'accélère parce que vous passez de 1 à 10 interlocuteurs. Enfin, je ne sais même pas combien de professeurs différents peuvent avoir les collégiens, mais au moins une dizaine. Et ça devient très, très compliqué, en fait. Donc, Sacha n'était pas bien, ça ne se passait pas bien. On voyait que la situation ne pouvait objectivement que s'aggraver. Donc, face à ce constat d'échec, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On reste les bras ballants ou alors on est force de proposition et on essaye d'ouvrir une structure adaptée aux troubles de ses enfants.
Il fallait que ça s'arrête. Et pour lui comme pour nous, en fait, il y avait aussi un côté très égoïste. Qu'en fait, il fallait que ça s'arrête et il fallait qu'on trouve une stratégie où on n'était plus embêté par l'éducation nationale. Qu'en fait. On ne voulait plus en entendre parler, ça suffisait. Quoi. On avait fait trop d'efforts. Quand on monte l'école il y a 4 ans, à la fois on sait que c'est pas à nous de le faire et fait qu'on sera pas des enseignants, mais à la fois les solutions elles sont assez simples, hein, des petits effectifs, un environnement calme, du matériel d'adaptation à disposition et des enseignants bien sûr adaptés et une relation avec les rééducateurs, c'est tout en fait, hein, c'est pas grand chose.
C'est de l'enseignement personnalisé, en fait. C'est de l'enseignement à la carte. C'est pourquoi il y a peu d'élèves dans l'école, en fait. On veut pas plus de 25 enfants, sachant qu'on a un spectre relativement large. C'est-à-dire que les plus jeunes sont des CM1 et les plus grands sont des troisièmes, en fait. Donc ça fait quand même finalement 6 années d'études réparties sur 25 élèves, donc avec des différences, bien évidemment, de niveau et de pédagogie.
C'est des classes double niveau ?
Alors, c'est des classes double niveau, mais c'est presque des classes triple niveau ou presque des classes tout niveau. C'est-à-dire que dans cette idée d'enseignement personnalisé, tout dépend les points forts et les faiblesses de chacun. Chaque élève a son propre ordinateur avec des logiciels spécifiques, des logiciels adaptés aux troubles 10, parce que le passage par l'informatique, il est quasi obligé. C'est aussi dans le mobilier, en fait. Il y a du mobilier spécifique avec des tables avec des formes un peu bizarres, mais ça veut dire que ces tables, on peut travailler solo sur sa table, mais dans un temps de travail en groupe, on peut faire un cercle avec ces tables, on peut faire un hexagone. Il y a des couleurs sur les tables, donc les couleurs, elles peuvent être aussi propices propice à certains repères dans l'espace. De la même façon, on a des chaises sur lesquelles on peut s'asseoir dans les deux sens. Alors ça paraît un peu bête, mais on sait que parfois c'est des enfants qui ont du mal à tenir en place, en fait, parce qu'il peut y avoir aussi de l'hyperactivité. Et ben, le fait de retourner sa chaise, de s'asseoir à l'envers, de poser les coudes dessus, c'est pas pour autant qu'on va moins bien travailler, c'est pas pour autant qu'on apprend moins bien, mais on est dans une posture un peu différente, un peu moins statique et un peu moins scolaire.
C'est trop tard pour Sacha, il est rentré trop tard. Et moi, je suis en colère. Enfin, même, c'est, je dois vous avouer, c'est presque douloureux de venir ici, quoi, parce que je vois des petits rentrer en CM1. Et je me dis, s'il était rentré en CM1, les choses seraient... Je suis très égoïste sur ce coup-là, en fait. je pense à mon fils. Alors, mon fils va, il va merveilleusement bien maintenant, mais j'aurais aimé qu'il puisse avoir ce même enseignement plus tôt. En fait.
Qu'est-ce que ça aurait changé, selon vous ?
Je pense qu'il aurait été moins en fragilité d'un point de vue de l'estime de lui-même. Probablement que ça lui aurait enlevé une part de la combativité qu'il a dû mettre en œuvre. Ça a été aussi une chance qu'il ait à se battre contre ça de cette façon. Il a développé des compétences qu'il n'aurait probablement pas développées dans un autre cadre. Donc voilà. Mais ça nous aurait évité des souffrances, quoi.
Les apprentissages, ce n'est pas seulement un stockage de connaissances, c'est une manière de mettre en relation des informations. Et pour le faire, il faut être en confiance, il faut être sûr de soi-même, faire des ponts, oser prendre des risques. Et quand on est stressé, quand on est anxieux, quand on a des doutes, ben c'est beaucoup plus difficile.
Mario Speranza, pédopsychiatre.
Et donc on voit que dans certains cas, ben la dépression peut être aussi quelque chose qui arrive et qui se manifeste. La démoralisation, souvent, la difficulté à avoir le sentiment de réussite, et donc l'envie un peu de laisser tomber, de ne pas investir, de se mettre en retrait, qui peut, dans certains cas, se manifester comme un vrai syndrome dépressif, avec évidemment toute la dimension de dévalorisation, de sentiment de ne pas y arriver, de pas pouvoir changer, jusqu'à avoir des pensées suicidaires sous le fait de dire que bah, si j'étais pas là, ça serait peut-être beaucoup plus simple.
J'ai 10 ans et on est très fiers d'être dans cette école. On est très heureux. Et sans cette école, moi, je serais encore à l'école en train d'être pas très bien à apprendre parce que j'arriverais pas à apprendre. Je préfère être ici parce qu'ici, ils sont plus adaptés à moi. Il y a plus de personnes qui sont gentilles avec moi parce que je me suis déjà fait harceler.
À l'ancienne école, il y avait des gens... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils balançaient des cailloux, ils étaient méchants. Ici, au moins, les gens, ils vont pas t'insulter, te dire des trucs. Ils vont pas te traiter de tous les mots d'oiseaux. Si je suis venue dans cette école aussi, c'est parce qu'ils s'adaptent bien à nous.
La diversité, la différence, est quelque chose qui fait partie de la vie et de la vie en communauté. Quand on a une difficulté, quand on a un trouble, on a une manière un peu atypique d'être au monde. Et donc, il peut y avoir des difficultés d'ajustement liées, par exemple, aux difficultés langagères, aux difficultés à réguler l'impulsivité, des difficultés dans l'ajustement social, même si ce n'est pas au niveau de la sévérité qu'on retrouve dans le trouble du spectre autisme. Ces spécificités peuvent ne pas être acceptées par les autres et devenir objet de cible comme le harcèlement, parce que la différence, elle n'est pas acceptée en général. Nous n'avons pas une culture de la différence, dans ce qu'il y a d'important, d'utile dans la différence auprès de l'autre.
Mario Speranza, vous êtes italien, et alors quelle est l'approche du handicap et notamment des troubles du neurodéveloppement dans votre pays d'origine ? Est-ce que la France pourrait s'en inspirer ?
Depuis toujours, le principe de l'école en Italie était un principe d'inclusion de tous les enfants présentant des troubles des apprentissages comme des troubles du neurodéveloppement. Et donc, l'idée, c'est que l'enfant doit être dans le milieu scolaire d'emblée pour bénéficier de ce que le groupe, les pairs, le principe de l'imitation qui fait partie des mécanismes de l'apprentissage soit présent pour tout enfant, même s'il a des difficultés sévères dans des domaines d'apprentissage ou du développement. Donc il y a une culture qui a d'emblée été conçue comme une culture de l'inclusion, avec la spécificité d'associer à des enseignants, disons, principaux, des enseignants spécialisés, compétents pour les troubles que présentent les enfants. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas du soutien, c'est pas de l'accompagnement uniquement éducatif, c'est de la pédagogie spécialisée pour favoriser l'inclusion, mais aussi l'acquisition d'apprentissage par des modalités particulières. Donc il y a une compétence technique qui s'ajoute au principe de l'inclusion.
À l'instar de l'Italie, d'autres modèles inclusifs existent, s'appuyant sur des pédagogies alternatives, comme l'accessibilité universelle des apprentissages, qui nous vient du Canada.
Mon nom est Marie-France Pagé, je suis orthopédagogue au Québec et la présidente de l'Association des orthopédagogues du Québec. L'orthopédagogue au Québec détient une expertise spécifique en difficulté d'apprentissage. Au Québec, ce qui est particulier, c'est que l'orthopédagogue détient une double expertise, soit une expertise pédagogique qu'elle va partager avec l'enseignant et une expertise plus spécialisée qu'elle partage avec d'autres professionnels comme une expertise paramédicale dans le domaine de la psychologie ou encore de l'orthophonie. Ça lui donne vraiment une paire de lunettes bien à elle pour évaluer les difficultés d'apprentissage, pour les interpréter, mais aussi pour intervenir auprès des apprenants. Bien sûr, l'orthopédagogue est présente dans les milieux scolaires. Il y en a beaucoup au primaire, notamment au Québec. Il y en a aussi quand même au secondaire, mais il y en a moins qu'au primaire. Puis, elle est présente pour identifier, bien sûr, les besoins des élèves. Ça peut se faire de différentes façons. On doit vraiment prendre connaissance des forces et des défis, de ce qui a été fait par le passé. On observe, on questionne. Ensuite, on évalue les besoins. Et là, on ne parle pas d'évaluer dans un but normatif, mais vraiment dans une dynamique d'évaluation pour identifier les besoins et mieux intervenir. On planifie nos interventions, on intervient auprès des élèves ou des apprenants qui rencontrent des difficultés ou même des troubles. Ça, c'est vraiment une très grande partie de notre travail. Ensuite, il y a aussi tout l'aspect de la collaboration et du soutien-conseil auprès du personnel enseignant, auprès des parents. Il y a la collaboration avec la direction de l'école, bien sûr, et avec les autres professionnels. Quand l'orthopédagogue intervient dans le milieu scolaire, alors elle va intervenir pendant les heures de classe auprès des élèves. Donc, ça se traduit souvent par exemple, l'enseignante enseigne des notions en classe, mais si un élève rencontre des difficultés, ou par exemple, s'il est dyslexique, dysorthographique, l'orthopédagogue va prendre un sous-groupe d'élèves ou des élèves en individuel et pourra intervenir avec ces élèves-là avec une intervention vraiment qui est supplémentaire, qui est spécialisée et qui est intensive. D'un point de vue très administratif, les troubles 10 ne sont pas dans la catégorie handicap. Toutefois, ils n'ont pas besoin de l'être, puisqu'on est dans une approche non catégorielle au Québec. Un élève qui a des difficultés ou qui aurait un trouble d'apprentissage, qui ne serait pas identifié comme tel, mais qui en aurait un, peut avoir droit à un outil d'aide technologique, par exemple, comme une synthèse vocale en lecture ou un correcteur en écriture. Et je pense que l'approche non catégorielle au Québec favorise peut-être une intervention plus rapide, puis des adaptations qui sont mises en place peut-être de façon plus équitable là, entre les divers milieux de 4, 5 ans jusqu'à 17 ans, les élèves n'ont pas besoin de diagnostic à la fois pour avoir des interventions, mais aussi pour avoir des adaptations qui sont mises en place pour eux.
Je m'appelle Laure Trévilly, je suis principale du Collège Anatole France pour la troisième année. C'est mon quatrième établissement scolaire et j'ai été sensibilisée à la difficulté en général au cours de ma carrière, que ce soit en Guyane française auprès des élèves allophones ou que ce soit auprès du handicap pour avoir travaillé comme directrice pédagogique d'un hôpital. Le Collège Anatole France se situe à Montataire dans l'Oise. C'est un établissement qui est en réseau d'éducation prioritaire avec un quartier prioritaire de la ville, ce qui donne lieu à une cité éducative qui permet d'avoir un budget alloué par l'État. Nous, notre premier enjeu, c'est l'inclusion à tous les niveaux, que ce soit difficultés scolaires,
problèmes de langue pour les élèves primo-arrivants et allophones. Difficultés scolaires en tout genre, dont les enfants dyslexiques font partie. Cette année, il y a 775 élèves. On a 35 classes, des classes de 25 élèves, puisque en réseau de rééducation prioritaire, le maximum, c'est 25. Nous avons deux dispositifs ULIS et nous avons une SECPA.
Et alors, qu'est-ce qui est spécifiquement mis en place au sein de votre établissement pour l'accompagnement des élèves 10 ?
Le Collège de Montaterre a mis en place déjà une formation qui est continue pour tous les professeurs qui arrivent et qui sont anciens sur la prise en charge des troubles des apprentissages. Donc ça, c'est soit des inscriptions volontaires, soit ce que permet le réseau d'éducation prioritaire, puisque nous avons des heures dédiées à la concertation. Donc ça peut être aussi des concertations où on fait venir des intervenants qui peuvent former nos personnels. Je suis très concernée par ce problème, ayant eu moi-même des enfants dyslexiques pour un et dyspraxiques pour l'autre, ce qui m'a fait découvrir très tôt en fait ce type de pathologie et de difficultés scolaires qu'on peut rencontrer dans notre système, sachant que c'était 20 ans en arrière, le système était quand même bien plus défaillant pour ce genre d'enfants, puisqu'on sait que la loi de 2005 justement est quand même assez récente pour mettre en place les besoins et qu'il est très long de former toute une population scolaire. Voilà, donc oui, c'est très important pour que les professeurs ne se sentent pas démunis, puisque la formation initiale ne prévoit pas un grand nombre d'heures pour cette formation, pour les troubles des apprentissages, et qu'en plus, il est compliqué de ne pas mettre tous les enfants dans une même case. C'est-à-dire que les professeurs doivent être formés pour pouvoir adapter à l'enfant qu'ils ont devant eux, qui est leur élève, mais qui n'a pas forcément la même pathologie que Pierre, Paul ou Jacques. C'est-à-dire chaque enfant dyslexique, ou dysorthographique, ou dyspraxique, ou dyscalculique, n'a pas forcément le même besoin qu'un autre. Et arrivé au collège, on est quand même en âge de la personnalisation, notamment de l'écriture, qui fait que chaque enfant va avoir besoin d'adaptations différentes dans tout ce qui existe pour pouvoir l'amener d'un point A vers le point B pour ses apprentissages. L'autre projet qui est mis en place dans cet établissement, c'est une forte mise en place de co-intervention et de co-enseignement. C'est très innovant. Alors évidemment, ça demande aussi d'avoir le budget. Donc notre dotation horaire globale, le fait d'être en réseau éducation prioritaire, nous permet de le faire, ce qui est vraiment un plus pour nos élèves.
Donc, on y va sur la feuille blanche que Madame Pello vous a distribuée. Deux droites sécantes, contraste avec les instruments, et on mesure les angles comme dans les triangles.
Là sur cette séquence, soit on travaille sur les angles, il faut vraiment que tu aies au moins ton rapporteur.
Comme il l'a dit, des droites comment ? Qui se croisent, c'est tout. Pas plus, pas moins, des droites qui se croisent.
Allez.
Ceux qui ont besoin de règles, on lève la main. Et à ceux qui ont besoin de rapporteurs, Madame Pello, les distribue.
On lève la deuxième main.
On lève la deuxième main.
La co-intervention, en fait, elle consiste à avoir deux enseignants dans la même salle pendant l'heure de cours.
Marie Horner.
Ce qui va permettre déjà de mettre en place un certain nombre de choses et notamment de pouvoir venir en aide, par exemple, aux élèves qui sont en difficulté pendant le cours. Le co-enseignement, selon moi, va beaucoup plus loin, puisqu'il consiste à préparer déjà ensemble en amont et également à analyser ensemble la séance une fois qu'elle a eu lieu pour éventuellement remédier. Et en fait, la co-préparation va changer énormément de choses parce qu'elle va permettre non pas de répondre en direct aux besoins d'un élève, par exemple en se disant « Ah bah, je vois que lui, il n'a pas le temps d'écrire, je vais peut-être écrire pour lui pendant 5 minutes ». Là, la co-préparation va faire qu'on va anticiper en réalité les difficultés qui vont se poser. Et du coup, en préparant, on va prévoir des aménagements pour pouvoir répondre aux besoins des élèves. Je suis professeure volante, c'est-à-dire que je vais co-enseigner avec 4 enseignants différents de 6e. Et donc, chaque jour, je me rends dans une classe différente pour co-enseigner avec le prof de français de la classe.
Donc vous êtes dans une adaptation très en lien avec les apprentissages, mais est-ce qu'il y a une partie psychologique que vous prenez également en compte ou c'est plutôt l'infirmière scolaire ?
Vu le profil de certains élèves, nécessairement on est obligé de prendre aussi en considération la psychologie. Et là, je dirais que le co-enseignement y répond vraiment. C'est-à-dire que le co-enseignement va permettre qu'il y ait aussi des enseignants, enfin un enseignant dans la classe qui va être disponible à un moment, si jamais il y a un souci. Par exemple, un enfant qui est en panique parce qu'il n'arrive pas à faire le travail, ou alors un enfant, il s'est passé quelque chose l'heure d'avant et du coup, il est en larmes. On est tous confrontés aussi à ce type de situation. Donc forcément, le fait d'être à deux va pouvoir permettre aussi de travailler ça et de répondre à ces besoins-là. Moi, je trouve même que laisser 25, voire 30 élèves à un seul adulte, c'est de l'inconscience, en fait. Et que le co-enseignement devrait être pratiqué partout et tout le temps.
Alors, n'hésite pas, tu vois, tu dois utiliser toute ta poche. Donc, n'hésite pas à prolonger ta droite. D'accord ? Ce sera beaucoup plus simple pour les mesures après. Alors, attention, attention. Séquence. On a dit qu'elle devait se...
Croiser.
Allez, on est attentif, on écoute, on a terminé. À votre avis, quand je vais prendre mon rapporteur, j'ai la construction là. À votre avis, est-ce que je vais obtenir les mêmes mesures d'angle que vous ?
Il y a quelque chose de l'ordre de la conviction personnelle, mais en même temps, c'est quand même dans nos missions. Donc, la loi, elle n'est pas contournable et contournée. On doit inclure les élèves.
Moi, je dis que respecter les droits des personnes pourrait à terme faire des économies. C'est très difficile à quantifier, mais enfin, clairement, pour le coup, pas très compliqué de dire qu'un jeune qui réussit, qui arrive à faire des études, il y a quand même plus de chances qu'il soit en travail et que donc, évidemment, c'est un coût moindre pour la société. Donc, ça me paraît absolument une évidence qu'on a tout intérêt à mettre tous les moyens nécessaires pour que l'enfant soit vraiment, voilà, qu'on respecte son droit à l'éducation, hein, qui est quand même un droit de base, parce que évidemment que c'est rentable sur le long terme. Je ne vois pas l'intérêt économique à ne pas agir. Et puis, de toutes les manières, le principe, c'est le respect des droits. Enfin, je pense qu'une société démocratique comme la nôtre, elle doit respecter les droits des personnes, et particulièrement les droits des enfants.
Merci à Barbara, Isaiah, Stéphanie, Lucie, Virginie et Quentin Mathieu, Claire Edon, Stéphanie et Éric Bouger, Marie-France Paget, Mario Speranza, Laure Trévilly, Marie Horner et le Collège Anatole France de Montaterre et l'école EDEIS à Aisine.
Je me trouve différente des autres et j'aimerais bien être normale. Sauf que je peux pas et j'aime pas le dire que je suis pas comme les autres.
Et est-ce que tu penses pas qu'en grandissant, tout ça, ça va finir par s'équilibrer? Est-ce que t'es optimiste?
Pas du tout. Ça va peut-être s'améliorer, mais je pense que je serai toujours en dessous des autres. Ma mère a dit que c'est un super pouvoir, mais pour moi, c'est... Pour l'instant, ça me rabaisse et... Ben, je la crois. Mais pour l'instant, de ce que je vois, ben, ça marche pas.
Lecture. Nathalie Canouy, Hélène Losseur et Olivier Martineau. Prise de son, Guillaume Ledu, Benjamin Vignal, Lucien Lefebvre, Maëlle Larfassor, Bruno Mourlan, Philippe Thibault. Mixage, Éric Boissé. Chargée de programme, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.
Trouble 10, des vies à inventer. Un documentaire d'Elvire Cassan, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.